Professeur Meige, bonjour.
Bonjour.
Professeur Meige, nous allons parler aujourd'hui de maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Qu'en est-il en ce moment ?
Maladie émergente, c'est une grande crainte. C'est une grande crainte qui nous est revenue directement par le bioterrorisme. Le bioterrorisme nous a appris que les maladies infectieuses du passé pouvaient revenir. Elles pouvaient revenir dans le cadre de stratégies militaires. Mais ça nous a permis également de nous apercevoir que de nombreuses maladies infectieuses qui étaient oubliées sont réapparues ces dernières années. C'est par exemple le cas de la fièvre des tranchées, qui était une maladie qui a été connue pendant la guerre de 14 et qui est réapparue chez les populations paupérisées, les sans domicile fixe par exemple. C'est toutes ces maladies émergentes virales qui sont apparues dans les zones tropicales suite à des grands bouleversements du monde forestier. Et puis des maladies apparemment aussi simples que la grippe, dont on s'aperçoit qu'elle représente un danger extrêmement important et que le risque permanent que le virus puisse muter et nous engendrer une grande pandémie comme la grippe espagnole de 1917 est véritablement aux portes et avec un risque majeur pour nos populations. Donc nous redécouvrons le risque infectieux grâce à la réémergence des maladies infectieuses.
Alors j'ai envie de vous demander, professeur Meige, que faire ?
D'abord, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi c'est cette réémergence de maladies infectieuses. Et donc, ça veut dire qu'il faut développer une approche de recherche, mais une véritable approche de recherche, je dirais, multidisciplinaire, qui va étudier les agents infectieux eux-mêmes, qui va étudier nos mécanismes de défense et qui va aller au-delà de ça, vers une plus grande approche de problèmes sociétaux, la pauvreté, les déplacements de population, des facteurs climatiques. Donc, le changement climatique va clairement modifier la survenue des maladies infectieuses, et donc on commence déjà à voir des modifications à ce niveau-là. Et puis aussi notre capacité à lutter contre les maladies infectieuses par des outils traditionnels comme les antibiotiques, engendrer une situation complexe, qui est une situation de grande résistance aux anti-infectieux, et qui donc doit faire appel à une nouvelle approche, le développement de nouveaux outils, de nouveaux médicaments, qui représentent tout l'enjeu que nous avons actuellement.
En termes de santé publique, professeur, quel est le pourcentage de la population qui est touchée ?
Tout le monde est potentiellement une cible de maladies infectieuses réémergentes. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous sommes tous soumis à un risque infectieux. Ce risque infectieux est potentialisé quand nous sommes mis en situation de crise, chez les déplacés par exemple, ou quand nous sommes tout simplement hospitalisés et soumis à des soins qui vont d'un certain côté nous permettre de guérir la raison pour laquelle on a été hospitalisé, mais vont engendrer un risque et ce risque va être un risque infectieux.
Professeur Meige, je suppose que dans le cadre de votre médecine, on va dire encore une fois caricaturalement sur mesure, vous intéressez beaucoup à tout l'aspect génétique et aussi aux marqueurs pour aller vers une médecine dite prédictive.
Oui, tout à fait. Donc, on peut donner un exemple. L'exemple, c'est les infections à mycobactéries, dont l'exemple le plus connu est quand même la tuberculose. Eh bien, on s'est aperçu ces dernières années que ces infections à mycobactéries survenaient chez certains individus qui possédaient des anomalies particulières au niveau de gènes du système immunitaire. Donc, il est clair que si on peut, chez ces individus-là, identifier ces gènes, on pourra leur proposer des stratégies vis-à-vis de la maladie infectieuse. De la même façon, on sait depuis fort longtemps que les individus qui ont des mutations particulières peuvent à l'inverse être protégés. C'est le cas par exemple dans le cas du sida où certains individus se sont avérés être protégés de la maladie infectieuse parce qu'ils avaient ces mutations. Donc il était absolument essentiel de pouvoir décrire chez chacun des individus soumis à une infection qui en ont guéri ou qui en ont pas guéri, savoir quels sont les gènes de réponse de l'hôte qui sont mis en jeu de façon à pouvoir à terme proposer des mesures adaptées à chaque individu.
Je suppose bien que là, on est un peu dans une démarche assez lointaine, que cette nouvelle médecine aura ses limites de par la complexité du génome peut-être et de par l'énorme quantité de marqueurs qu'il y a par rapport à toutes les maladies qui seront potentiellement à traiter.
Alors il y a des situations simples. Il y a des situations simples et qui seront d'ailleurs les plus rares. C'est celle où un seul gène sera impliqué dans la susceptibilité ou la résistance à une maladie infectieuse. Très probablement, la plupart du temps, ce qu'on va retrouver et ce qu'on commence déjà à retrouver, c'est un ensemble de gènes. Ça veut dire qu'on va définir une signature complexe. Donc, chaque individu aura une véritable carte d'identité moléculaire. Cette carte d'identité moléculaire nous permettra de savoir s'il est résistant ou non à l'infection. Alors, le problème que cela pose va aussi poser quand même, c'est un problème éthique, c'est-à-dire jusqu'où doit-on aller dans cette signature individuelle et est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi dont il faut être conscient, qui est la possibilité que des individus qui auront les gènes de susceptibilité pourront par exemple être taxables, je dirais, en termes d'assurance, puisqu'ils seront porteurs d'un risque potentiel. Donc il faut être très très prudent dans cette approche, mais c'est indiscutablement, c'est une approche sur mesure qui va changer complètement nos stratégies thérapeutiques.
Oui, professeur Mel, ce sont des questions qui sont éthiquement très très importantes pour notre communauté. Donc j'espère que le législateur aura les réponses adéquates. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous voyez dans un futur proche que le problème pourrait se poser ?
Non, probablement non, si on reste prudent. Et de toute façon, à l'heure actuelle, nous avons les outils qui nous amèneront à rester prudents. Mais il est important que nous ayons présent à l'esprit la dimension éthique au sein de la recherche biomédicale.
Professeur Mej, vous avez des formations, je crois, dédiées en ce qui concerne un master pour préparer les médecins à ces nouveaux enjeux.
Oui, nous avons développé depuis maintenant un certain nombre d'années, exactement 7 ans et surtout 4 ans depuis que la réforme LMD a été mise en place, des formations dédiées, en particulier une formation qui s'appelle Pathologie humaine, qui est dédiée à l'étude de la recherche biomédicale. Cette formation dépasse les maladies infectieuses, puisqu'elle concerne les maladies infectieuses, mais également le cancer, la nutrition. Elle aborde également les problèmes d'environnement et de santé, les problèmes de génétique, et va jusqu'à une approche, je dirais, beaucoup plus professionnalisante au niveau du conseil en génétique. Donc l'idée, c'est de dire, nous formons à la fois des gens issus des filières de santé et des gens issus des filières de sciences à une recherche biomédicale dans un esprit multidisciplinaire.
C'est une formation qui se passe à la faculté, je suppose ?
Cette formation se passe à la faculté de médecine de Marseille. Elle concerne maintenant un grand nombre de personnes, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons à peu près une centaine d'étudiants chaque année. Ces étudiants vont soit directement rentrer dans des carrières professionnalisantes au terme du master, soit vont continuer en thèse, et nous avons un taux d'insertion professionnelle des docteurs qui est important pour une raison toute simple, c'est qu'ils sont impliqués dans des cursus qui ont un débouché évident. Donc à partir de ce moment-là, nous avons un taux d'insertion qui peut être supérieur à certaines formations qui sont beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus déconnectées de cette réalité-là.
Quelles sont les carrières qui s'offrent à ces médecins et ces scientifiques ?
Alors, les carrières qui s'offrent sont tout d'abord des carrières au niveau des organismes de recherche, mais certes en petit nombre, des carrières au niveau donc des formations d'enseignement, en particulier au niveau de l'université, et indiscutablement nous avons quand même une bonne insertion dans ce domaine-là. Et puis il reste l'industrie, où malheureusement au niveau de la région PACA, on n'est peut-être pas les meilleurs en termes de tissu industriel, mais quand même dans le cadre d'une mobilité, nos étudiants arrivent à une bonne insertion. Globalement, il y a très très peu d'étudiants qui n'ont pas d'insertion professionnelle au-delà de la thèse. Souvent, cela passe par une mobilité, mais une mobilité qui est de toute façon enrichissante.
Professeur Mej, j'ai aussi entendu parler d'un master pro en génétique et médecine prédictive. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste ?
Alors, ce master a été créé il y a maintenant 4 ans, grâce à l'initiative du professeur Nicole Philippe et du professeur Agaï Sobol. L'idée était de former des gens vers des nouveaux métiers de conseil en génétique qui vont faire le lien justement entre les familles à risque génétique et les médecins, et d'autre part, développer les métiers de conseiller en médecine prédictive qui vont justement exercer ce même rôle, mais dans les domaines du risque de cancer, du risque de maladies neurologiques, maladies dégénératives, du risque de maladies inflammatoires, voire de maladies infectieuses. Ce nouveau métier a été créé maintenant très très récemment. Nous formons actuellement des conseillers en génétique, conseillers en médecine prédictive. C'est une formation qui est unique en France, et actuellement le décret donc qui est paru impose que tout conseiller en génétique ait validé le master pro de conseiller en génétique que nous faisons à Marseille.
Ce sont des gens qui seront en fin de compte les intermédiaires naturels entre le médecin traitant et le patient ou alors la famille.
Ils seront l'intermédiaire entre le médecin traitant, le médecin généticien qui a identifié l'anomalie génétique qui crée le risque, et les familles qui justement vont avoir ce besoin d'information. Avoir un risque, c'est pas avoir la maladie, mais justement c'est toute cette notion-là, cette subtilité-là qu'il faut pouvoir expliquer aux patients. Il faut avoir du temps pour ça, et il faut véritablement une formation dédiée où justement on va leur apprendre. Cette formation leur apprend à la fois des notions de génétique qui sont absolument essentielles pour pouvoir expliquer le risque, mais également tout un contact avec le malade, et c'est une de double compétence que ce master exige.
J'ai l'impression, professeur Mej, que nous assistons à la révolution en quelque sorte de la médecine.
Oui, tout à fait. C'est véritablement une révolution qui se met en place, et on va avoir énormément besoin de conseillers en médecine prédictive, et cette formation va y contribuer.
Professeur Maige, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Je rappelle qu'on peut vous joindre sur votre mail à jean-louis.maige@univmed.fr. Merci beaucoup.